Donc, grosso modo, je vais donc vous présenter en introduction un peu les contextes de la recherche que j'ai fait, enfin les contextes dans lesquels elle s'inscrit. Ensuite, assez classiquement, je vais présenter très très vite la méthode et puis surtout les terrains. Et puis, ensuite, je vous présenterai donc comment, qu'est-ce que j'ai pu observer dans la manière dont ces quartiers se sont densifiés, se sont transformés, ont évolué au fil du temps, parce que ce sont des quartiers anciens. Et j'aborderai ensuite le côté comment les gens qui habitent ces quartiers reçoivent, perçoivent ces changements. Voilà. Avec après un peu une conclusion sur les intérêts et les limites de ce type de processus. Donc, effectivement, il y a un contexte politique en matière d'urbanisme et politique urbaine. L'action publique est de plus en plus marquée, notamment avec les lois SRU et Grenelle. C'est de plus en plus marquée en faveur donc, de la complexité urbaine et en faveur de la densification. Donc, dans ce contexte, évidemment, les lotissements pavillonnaires sont pointés du doigt pour leur responsabilité dans l'étalement urbain, et de ce fait, ils sont une cible privilégiée, et aussi, de fait, la stigmatisation qui est fort ancienne hein, des banlieues pavillonnaires par l'action publique, le monde de l'aménagement et une partie du monde de la recherche, et bien de fait, cette stigmatisation qui est ancienne connaît aujourd'hui un renouveau avec l'avènement du paradigme du développement durable. Ces tissus sont considérés comme peu mutables, figés, et leurs habitants sont souvent présentés comme enclins à développer l'entre-soi et éventuellement, c'est pas trop fort parce que moi je le remarque un peu trop, donc à développer l'entre-soi et des syndromes de type NIMBY face à toute dynamique sociale ou urbanistique qui menacerait le statut quo résidentiel local. Donc ça, c'est pour le contexte général sur le pavillonnaire et la densification, la problématique de la densification par rapport au développement durable. C'est dans ce contexte que, effectivement, le projet BIMBY, enfin, je vous le présente comme ça, il s'appelle, comme je vous l'ai mis sur la couverture, un nom plus compliqué, mais il est très connu sous le nom de BIMBY. Donc ce projet qui a été financé par une ANR, qui est un projet... voilà. Donc l'idée, c'est justement de concilier le pavillonnaire, parce que vous savez qu'il y a... c'est des chiffres qui sont assez connus, depuis qu'on fait des statistiques et des recensements là-dessus, il y a une majorité écrasante de la population qui aspire, on parlait d'aspiration ce matin, à habiter une maison individuelle avec un jardin dont ils seraient propriétaires. Donc l'idée, c'est les gens aiment le pavillonnaire. Pour faire du développement durable, enfin pour être dans les clous, il faut densifier. L'idée des porteurs de ce projet, c'était de concilier demande sociale et développement durable en densifiant le pavillonnaire par du pavillonnaire issu de divisions foncières. Alors, en fait, il s'agit effectivement de proposer la construction de nouveaux pavillons sur des parcelles qui sont issues de la division foncière d'une parcelle pavillonnaire déjà construite. D'accord ? Donc on a une maison, avec un jardin, et bien on divise, on coupe la parcelle en deux, la personne reste avec son pavillon et une parcelle plus petite, et quelqu'un d'autre construit un pavillon sur l'autre morceau dans le jardin, d'où le fameux terme BIMBY qui signifie avec une allusion très forte, évidemment, posée au syndrome NIMBY, de build in my backyard. Oui, alors pourquoi ? Parce que, effectivement, à grands traits, l'hypothèse suivante du projet et des porteurs de ce projet, c'est la non-acceptation sociale de la densification et donc la non-acceptation aussi par les élus locaux, puisqu'ils sont, se sentent partie liée avec l'acceptation sociale. Donc c'est cette non-acceptation sociale qui est le principal frein à la densification des tissus pavillonnaires. Donc du coup, voilà, d'où l'idée de favoriser une densification en faisant du pavillonnaire. Ils avaient fait des calculs et tout pour... Je ne m'étendrai pas sur le projet Bimby dans son détail. Je vais vous, plutôt me focaliser sur la recherche que j'ai conduite à l'intérieur de ça et qui est finalement un espèce de petit électron. Pas libre, pas très, mais un électron, toujours. Un électron dans cette recherche que j'ai conduite sous la responsabilité scientifique d'Éric Charm, et donc qui s'est inscrite dans ce programme. Mais ce programme est un programme très opérationnel, d'une part, et puis un peu à part aussi, parce que moi je ne suis pas seulement intéressée à ce qu'on appelle dans ce programme la densification Bimby. Donc c'est division foncière et construction d'un nouveau pavillon, puisque je me suis intéressée non seulement à des quartiers pavillonnaires anciens, donc avec une épaisseur historique, et puis je me suis intéressée finalement aux transformations sociales de ces quartiers, comment ces quartiers avaient évolué dans le temps, à la fois d'un point de vue morphologique et social. Donc moi je suis géographe de formation, je ne suis pas Sciences Po. Non mais je le dis, ça je ne suis pas urbaniste non plus. Voilà, j'ai une géographe qui s'était pas traitée de sociologue. Bon, donc,
elle va
donner un peu de.
Quel chiant, quel mot sale.
Donc, voilà, pour me cadrer. Et donc, voilà. Alors, allons-y. Alors, pourquoi j'ai ciblé des quartiers pavillonnaires, parce qu'avec Eric Cham, moi, on a choisi ensemble, disons, l'idée. Après, moi, j'ai choisi les terrains précis. Mais l'idée de quartier avec une épaisseur historique, eh bien, effectivement, c'était pour apprécier plus largement comment ces tissus pavillonnaires ordinaires, on va dire, avaient évolué dans toutes leurs composantes et des petits détails, etc. Donc l'objectif était double, à la fois comprendre les processus de transformation, les dynamiques de transformation, et c'est donc les moteurs et les acteurs de ces transformations au pluriel, et puis apprécier donc la réception sociale de la densification actuelle qui pouvait se passer dans ces contextes résidentiels. Donc, alors très très vite, mon travail s'est appuyé sur un important travail de repérage, d'observation. Donc, je travaillais à la fois sur plan photo aérien, cadastre, tout ça. Et puis aussi, évidemment, in situ en se baladant. Alors, ça dépend des quartiers. Il y a deux quartiers où ce n'est pas très facile de se balader. Les gens n'aiment pas trop, mais on cherche un coin. Mais donc, j'ai essayé de faire de l'observation in situ, mais il y a des endroits. Et donc, évidemment, après, une enquête par entretien, essentiellement auprès des habitants, enfin d'habitants, tous les habitants, et d'acteurs locaux, où j'ai essayé d'enquêter un petit peu à la fois les acteurs directement, je veux dire, les acteurs de la densification, c'est-à-dire des propriétaires qui font une division de parcelles, donc ce qu'ils appellent les... dans le contrat des propriétaires initiateurs. Et voilà, enfin des gens qui vendent une partie de leur terrain ou qui, en s'en allant, leur terrain est divisé. Et puis, mais aussi des gens qui sont susceptibles de diviser, c'est-à-dire qui, du point de vue de la morphologie et de la taille de leur parcelle, ont largement de quoi, en gardant une taille de parcelle confortable, ils ont largement de quoi et la forme de la parcelle s'y prête. Voilà, donc ils pourraient diviser sans trop se priver. C'est un point de vue de l'extérieur. Et ensuite, les gens qui bénéficient des lots issus de division, c'est-à-dire les nouveaux acquéreurs, souvent des gens extérieurs au quartier, enfin des gens qui souhaitent acheter, qui n'ont pas de choses, et qui vont du fait habiter la parcelle, le morceau divisé, issu de division, et puis évidemment les voisins de ces divisions. puisqu'il y en a forcément de plusieurs côtés. J'ai retenu deux lotissements ouvriers de l'entre-deux-guerres où le processus de densification résidentielle donc, est avéré pour les raisons que je vous ai dit. J'entends par densité résidentielle le rapport entre le nombre de logements et une surface donnée. Donc les terrains précisément, donc au niveau de la localisation, un quartier en Ile-de-France, parce que comme c'est des quartiers anciens, ça s'est d'abord développé en Ile-de-France. Hein, le pavillonnaire, les banlieues pavillonnaires se sont développées avec une force incomparable entre l'Île-de-France en termes de précocité et d'ampleur en Île-de-France, donc un terrain en Île-de-France qui n'est pas toujours connu pour de bonnes raisons. Donc le quartier des Coudreaux, qui est un très gros lotissement sur lequel Françoise Dubost, tous les travaux qui ont été menés avec Alain Faure et puis Annie Fourcault sur les banlieues, ça a été étudié, pas forcément, mais dans ces environs-là et en partie là. Donc le quartier des Coudreaux, qui se trouve sur la commune de Chelles en Seine-et-Marne. Il faut savoir que Chelles, c'est la commune la plus importante de Seine-et-Marne en termes de population. Et puis le quartier du Bois du Roi, qui se trouve dans une commune d'Avrillé, qui se trouve frontalière de d'Angers. Alors point commun et différence entre ces quartiers. Je dirais que ces quartiers se ressemblent par leur structure urbanistique. Ils ont une trame orthogonale, une trame vierge orthogonale, qu'on dit bien maillée. Ça, c'est les urbanistes qui disent ça. Et ils se ressemblent aussi par la présence de collectifs de logements sociaux au cœur de la zone pavillonnaire, par une composition sociale plutôt semblable, par la présence d'équipements publics notamment, et de quelques commerces, et enfin par le fait qu'ils comptent parmi les quartiers restés populaires de leur commune. Donc il y a une dominante de classe moyenne inférieure, les cadres sont très sous-représentés, et par exemple à Avrillé, donc la commune pour le Bois du Roi, c'est une commune qui est bourgeoise, enfin, qui n'était pas au départ, mais qui s'est très fortement bourgeoisée. Mais on voit que le profil social de ce quartier est resté vraiment beaucoup plus populaire. Alors, je disais qu'ils se ressemblent, ils s'opposent par d'autres aspects, ils s'opposent par leur rapport à la ville et aussi par leur attractivité, parce que autant le Bois du Roi, dont je viens de vous parler par rapport à Avrillé, autant le Bois du Roi est particulièrement bien relié à la ville, à Avrillé comme à Angers, par les transports publics et par une continuité urbaine en progression. Le quartier de Angers, c'est ici, d'accord, de l'autre côté de l'autoroute. Le Bois du Roi, c'est ici. Avrillé, c'est là le cœur d'Avrillé, d'accord. Et en fait, ici, il y a une ancienne réserve foncière énorme, donc un aérodrome, et qui a été dégelé et qui est maintenant fait l'objet. C'est déjà, les bâtiments sont déjà en construction, fait l'objet d'un énorme projet d'éco-quartier qui vise la continuité urbaine complète entre Avrillé et Angers. Donc je disais particulièrement bien relié envers là, vous voyez le tramway qui est arrivé avec les questions du projet d'éco-quartier. Donc l'arrivée du tramway, pendant mes enquêtes, les travaux du tramway étaient sur la fin. Donc, il se trouve que, de ce point de vue-là, le quartier est particulièrement bien relié à la ville, je le disais, les Coudreaux sont, ici, d'accord, en limite de Montfermeil, puisque en fait, il faut savoir que les Coudreaux, en fait, c'est un lotissement gigantesque qui se trouve à cheval sur Chelles et Montfermeil. Mais là, moi, j'ai travaillé que sur la partie chelloise des Coudreaux. Donc je disais qu'elle est mal reliée à la ville, entendant que, effectivement, Chelles, la gare RER est ici, l'hôtel de ville ici, et vous voyez, il y a une trame verte très importante avec le bois des Coudreaux, la plaine des Coudreaux, un aérodrome qui fonctionne encore, qui est en fonctionnement, pour des fins de loisirs, et voilà. Donc en fait, il y a une toute petite route là qui relie, mais... et puis des zones inondables, et des tout un tas de... Bah, il y a une coupure verte qui fait qu'il se trouve un peu, effectivement, à l'écart. Et comme disent ses habitants, nous, on est une ville dans la ville. Et effectivement, en plus de ça, il souffre, ce quartier souffre d'un déficit d'image criant qui fait « Ah, tu m'as enquêté au Coudreau, oh là là, c'est dangereux, fais attention à toi. » Et les gens du quartier sont les premiers en plus à entretenir cette image qu'ils trouvent. Enfin, bon, c'est un petit peu schizophrénique. Donc, le caractère populaire, donc encore populaire de ces quartiers, le Bois du Roi sans doute va s'embourgeoiser, surtout avec l'arrivée du tram et de l'éco-quartier, mais pour l'instant encore populaire. Rend ces quartiers attractifs parce qu'en en fait, ils sont encore accessibles à des primo-accédants. Si le Bois du Roi est souvent jugé effectivement comme un quartier plein de charme, la mauvaise réputation des Coudreaux est, elle, en quelque sorte contrebalancée en termes d'attractivité, eh bien, par sa localisation francilienne et par la présence du RER à Montfermeil et à Chelles-Centre. Donc, c'est l'endroit pas cher et pas trop loin des RER. Donc dans les deux cas que j'ai étudiés, ces quartiers, finalement, par leur spécificité réciproque et par leur ancienneté, ont aujourd'hui une identité bien marquée qui, donc bon gré mal gré, comme je le disais, bah, les rend attachants aux yeux de leurs habitants. Oh non, ça va, je ne sais pas trop. Donc comment ces quartiers se sont transformés? Donc au départ, ces secteurs étaient des bois qui ont été défrichés au début du XXe siècle pour y installer quelques cabanes autoconstruites et de l'agriculture vivrière. Bien entendu, ils ne bénéficiaient, et là on voit sur la photo, d'aucun aménagement VRD, et ensuite ils ont bénéficié, dans les années 30, effectivement, des lois en faveur des malotis en partie subventionner ou accompagner l'effort financier des lotis pour des aménagements de type VRD. Alors progressivement, les cabanes se sont consolidées et les petites maisons, donc des petites maisons en dur, se sont multipliées. Les secteurs se sont donc... d'abord, ça s'est étendu parce que, par exemple, en fait, les Coudreaux, ça a commencé par le secteur limitrophe de Montfermeil et donc ça a progressé par tranches comme ça, d'ouest en est. Et oui, donc ça s'est peu à peu densifié et urbanisé, ça s'est rempli finalement de plus en plus. Ils se sont aussi diversifiés tant sur le plan social que morphologique, donc avec des destructions, reconstructions, parce que des fois les cabanes n'étaient pas vraiment, vous ne pouvez pas vraiment les réaménager. Et puis aussi, bah, comme je vous le disais, des divisions de parcelles, mais aussi des fusions de parcelles. On peut repérer notamment les divisions. Les fusions, c'est plus difficile à observer sur le cadastre d'aujourd'hui. Le développement progressif donc, dans ces quartiers de services urbains, d'une certaine accessibilité et la construction donc, d'immeubles de logements sociaux au milieu des... Donc voilà ce que ça donne un peu, c'est le Bois du Roi aujourd'hui. Donc pour voir un petit peu... on aperçoit, ça vous donne une idée de comment les choses se composent. Donc on voit qu'il y a déjà comment ça se manifeste sur une photo aérienne, les divisions partielles successives. Donc je disais des pavillons entre les années. Je ne les ai pas mis là. Bon, je vous les montrerai tout à l'heure, les pavillons. Les pavillons, les logements sociaux au milieu des pavillons. Donc finalement aujourd'hui il y a une hétérogénéité. Donc les logements sociaux c'était dans les années 60-70, c'est classiquement. Aujourd'hui, donc, il y a une hétérogénéité architecturale dans ces quartiers qui est assez marquée, qui tient à la fois à leur constitution progressive, donc on a expliqué le processus de remplissage petit à petit des parcelles par division et construction. Et puis, ça tient aussi au fait que ces secteurs ne sont régis que par le seul règlement d'urbanisme, règlement d'urbanisme qui est peu contraignant sur l'aspect des bâtiments, contrairement au règlement de copropriété, mais soit il n'y a pas de règlement de copropriété, soit ils ne sont plus en usage, ou ils sont en sommeil, ils ne sont pas appliqués, et donc tout est basé sur le seul règlement d'urbanisme. On voit que là où les règlements de copropriété et les cahiers des charges sont respectés, les choses ne sont pas du tout... se passe pas de la même façon. Donc, j'ai quelques photos pour vous montrer un petit peu cette hétérogénéité. Et puis, enfin, un autre élément qui favorise cette hétérogénéité, eh bien, c'est le fait, effectivement, que cette diversité, donc on voit au niveau des tops, là, c'est que Avrillier, enfin, que le Bois du Roi, donc on voit déjà au niveau de l'inclination des pentes, évidemment, on est que sur de l'ardoise, on est en plein dans l'ouest. De toute façon, tous les soirs sont en ardoise, on n'est pas... mais vous voyez l'inclination des toits, les pentes, les couleurs, les types de murets ne sont pas les mêmes. Ah, ça c'est à... Ça c'est à... Ça pense pas. Je vais y arriver, simplement. Donc voilà aussi d'autres types de construction. Donc on voit qu'il y a quand même une liberté, une souplesse assez importante. On a un peu des constructions toutes les époques. Et notamment, on le voit des annexes qui sont construites, il y a des agrandissements qui sont faits et qui font aussi évoluer. Voilà, voilà. Alors vous voyez, il y a beaucoup de changements aussi dans cette hétérogénéité qui sont liés finalement à des extensions qui sont faites par les gens, donc, soit avec des rehaussements, soit avec des agrandissements par le côté, donc avec pas forcément de raccord en fait en termes. D'apparence. Donc voilà un petit peu pour cette hétérogénéité. Mais quand on parle de densification, il faut quand même un peu préciser de quoi on parle. En tout cas, moi, je vais préciser de quoi je parle, parce que pour essayer de vous présenter les différents types donc, de densification que j'ai pu observer dans ces quartiers. Je repars en arrière sur mes photos. Et donc dans ces quartiers, donc ils donnent à voir, pour différencier les types. Donc il y a ce que moi j'ai identifié comme étant des choses qui c'est une densification qui est à la fois humaine et bâtie, d'accord. Donc une construction nouvelle et plus de population. Il y a des cas où il y a une densification que humaine. Il n'y a pas de nouvelle construction, il y a plus de gens dans les mêmes logements. Et il y a densification que bâtie. Alors les exemples que je vous ai montrés tout à l'heure, c'était de la densification que bâtie, quand les gens font des agrandissements. Donc il y a plus de surface bâtie pour pour le même territoire, mais pas plus de gens qui l'habitent. Donc il y a ça. Et puis l'autre chose, c'est que quand il y a densification humaine et bâtie, il y a deux types de processus qui sont opérés dans mon quartier, dans ces quartiers-là et puis ailleurs. C'est ce que, pour reprendre les termes de Jean-Michel Léger, la densification par le bas et la densification par le haut. Premier cas, donc, densification humaine et bâtie par le haut, par le bas, pardon, excusez-moi. Donc par le bas, là c'est donc son vraiment processus BNB, quoi, on va dire. Et il s'agit d'un processus spontané, spontané au sens de pas organisé par l'action publique, disparate, diffus, porté par une multitude d'acteurs. C'est une transformation progressive du tissu qui n'est donc pas le résultat d'une opération concertée, collective, mais bien une multitude, le résultat des actions d'une multitude d'acteurs, de propriétaires de parcelles, qui évidemment avec l'intermédiaire du monde immobilier et de la construction, on pourra en reparler, font évoluer le paysage et la densité de leur quartier. Donc dans ce cas-là, bah, la maille du tissu dans ce type de processus, et bien la maille du tissu pavillonnaire se remplit petit à petit bah, au rythme où se succèdent les divisions et les nouvelles constructions pavillonnaires. Donc là, on est dans quelque chose qui est progressif, on est dans quelque chose qui ne modifie pas fondamentalement le paysage micro-local, puisqu'on reste sur du pavillonnaire ou sur, comme vous avez ici, sur du petit collectif. Donc là, c'est un pavillon et là-bas au fond aussi, et en face. Et en fait, quand on passe devant, on ne se rend pas compte, puisque c'est légèrement en retrait, pour compenser la légère hauteur. Donc finalement, il y a plein de... Bon, là, ça n'en est qu'un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont encore plus intégrés au tissu pavillonnaire. Et qui finalement ne modifie pas fondamentalement le paysage et des petits collectifs qui, même de la vie de ses habitants, se fondent dans le décor pavillonnaire, des rues pavillonnaires. Et puis, ce processus, des fois, on ne l'aperçoit même pas, ce processus de densification, puisque dans ces cas-là, on est sur, et c'est assez fréquent, on le voit très clairement sur les cadastres, sur ce qu'on appelle de la parcelle en drapeau ou de la construction en fond de parcelle. Donc il s'agit sur une parcelle comme ça, on fait un chemin comme ça, on divise comme ça et on construit la nouvelle maison ici, d'accord, avec un chemin d'accès. Donc c'est ce qu'on voit sur les exemples de photos. Donc ça c'est assez fréquent et finalement c'est tellement discret qu'on ne se rend même pas compte que c'est dense derrière, parce qu'on ne voit que le front de rue, on remarque que les maisons en front de rue quand on cherche pas. Donc voilà, deuxième cas de figure, toujours densification humaine et bâtie, là c'est la densification par le haut, je vais aller assez vite, on est là sur des opérations portées par l'action publique, des immeubles sortent de terre, la démarche est interventionniste, la transformation est plus brutale. Quand je dis plus brutale, c'est pas un jugement de valeur, elle est plus brutale en ce sens qu'elle se fait sur un temps plus court, elle modifie en un temps plus court de manière plus significative à la fois la composition sociale du quartier, parce qu'il s'agit souvent de logements sociaux, et la composition paysagère, puisque effectivement les constructions se démarquent de façon plus nette par leur ampleur et par leur style architectural, se démarquent plus nettement de leur environnement bâti. En revanche, et c'est un des intérêts de la chose pour les pavillonnaires autour, quand il y a des opérations de ce type-là, en général, elles s'accompagnent de contreparties intéressantes en termes d'aménité urbaine, donc d'équipement ou de commerce ou de choses comme ça, comme on le voit là. Donc ça, c'est pour Avrillé avec le petit centre commercial au pied des HLM et les commerces. J'ai pas réussi à prendre des photos des deux, mais les commerces ne sont pas dans un centre commercial au Coudreau, mais voilà. Alors ensuite, densification uniquement bâtie, troisième cas de figure, donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est des cas d'extension, de rehaussement, d'extension sur le côté par agrandissement. Donc là finalement, c'est les occupants qui agrandissent leur bâti, mais il n'y a pas d'occupants supplémentaires. D'accord ? Donc finalement on baisse la densité à la parcelle, la densité résidentielle à la parcelle, et à l'échelle du lotissement ça ne change rien. Donc là, différents cas, ça peut être pour des questions de confort, ça peut être pour une évolution parce que la famille évolue, ça peut être pour réaliser une activité professionnelle, par exemple on va transformer le garage, on va l'aménager pour une activité personnelle ou pour de la peinture, du bricolage, etc. Ou bien, et ça c'est assez, c'est étonné parce que j'ai eu pas mal de cas de figure, donc ça joue sur la transformation fonctionnelle de ces zones pavillonnaires, il y a eu pas mal de transformations qui ont été des agrandissements ou des transformations en vue d'installer une activité professionnelle adossée au pavillon. Et donc, il y a eu des bureaux d'agents d'assurance, des paysagistes, une femme qui faisait de la création de vitraux et qui donnait des cours et qui fabriquait des vitraux. Tout un tas de choses comme ça qu'on ne voit pas parce qu'effectivement, on ne se perçoit pas, il n'y a pas forcément de pancarte. Et puis enfin, dernière grande catégorie de densification, toujours par le bas. Là, c'est la densification humaine sans construction supplémentaire. Voilà, on dirait un pavillon normal. Sophie, il y a trois boîtes aux lettres. Et en réalité, là-bas derrière, C'est un immense garage en fait en largeur comme ça avec plein de bah, autant de voitures que nécessaire pour les gens qui habitent là. Donc en fait il y a trois logements. Au moins trois. Il y a trois boîtes aux lettres, peut-être qu'ils partagent les boîtes aux lettres, je ne me souviens plus. Donc là c'est quelque chose, on voit notamment ce genre de choses au Coudreau. Mais pas seulement. Donc alors dans cette catégorie donc de densification humaine sans construction supplémentaire, là finalement la densification humaine progressive du quartier peut résulter, on s'aperçoit, de la conjonction de plusieurs phénomènes distincts. Alors à la fois la décohabitation parentale de plus en plus tardive des enfants, d'accord, donc ils restent de plus en plus longtemps dans le logement de leurs parents et donc ne vont pas participer à des... Voilà. L'hébergement d'un aîné âgé au sein de la maison, qui augmente la densité. Et la transformation, donc comme c'est le cas sur cette photo, la transformation d'un pavillon unifamilial en collectif dissimulé, donc là, trahi par la présence des boîtes aux lettres. Ou encore, comme c'est le cas pas mal au Bois du Roi, donc près d'Angers, où là, il y a des personnes âgées en fait, qui ont un gros pavillon et qui logent des étudiants dans une partie de leur maison. Quoi. Donc voilà. Donc tout ça pour vous montrer que d'une part, la densification non seulement n'est pas une nouveauté ou une innovation, la densification du pavillonnaire, c'est pas quelque chose, parce qu'on dit que c'est quelque chose à faire, mais en fait c'est quelque chose qui se fait déjà, qui est toujours en train de se faire, qui se fait depuis les débuts du pavillonnaire. Mais, et on voit aussi qu'elle peut se faire naturellement, sans l'intervention donc de l'État. Et puis d'autre part, on voit bien là aussi que les propriétaires de pavillons sont donc des acteurs importants de la transformation morphologique de ces quartiers, qui évolue certes par petites touches, mais de façon significative. Alors du côté... Ça va, mon temps, c'est pas trop long. 10 minutes. Donc du côté de la représentation, de la réception de ces changements par les habitants, je dirais que la manière dont les... Je fais très vite, je ne développe pas complètement sur la... On pourra le faire par les questions. De la manière dont les pavillonnaires résidents dans ces quartiers se positionnent par rapport aux transformations, aux divisions foncières qui sont faites et aux nouvelles constructions, je dirais qu'effectivement, comme le disaient les élus, effectivement, les mots densité et densification font peur. Ils renvoient à l'image presque systématique du gigantisme des grands ensembles, dont l'ombre portée obscurcit le jardin et la maison du pavillonnaire, et offre aux locataires des immeubles une vue plongeante sur l'intimité domestique des familles pavillonnaires. Cependant, ça c'est les discours. Mais en réalité, moi j'ai pas, au départ, j'ai fait que à la fin de dire les mots, mais je ne les ai pas dit, j'ai ni évoqué ni les mots de densité, ni de densification, ni de développement durable d'ailleurs, pour voir si ça sortait tout seul. Et en réalité, quand j'ai parlé de l'évolution du quartier, parce que moi c'est comme ça que je suis partie avec les enquêtés, parlez-moi de l'évolution, comment évolue votre quartier, c'était comment avant, et vous savez comment ça a commencé et tout ça. Et en réalité, je dirais que si les mots font peur, je dirais que la densification en acte, en tout cas celle qui se passe dans ces quartiers-là, ben finalement, surtout quand elle, évidemment, plus quand elle, c'est une densification par le bas, moins quand c'est une densification par le haut, eh bien, je dirais que la réception sociale est plutôt indifférente, voire même, pour un certain nombre, que je pensais moins nombreux, plutôt favorable au processus de densification dans ces contextes. Donc, pourquoi une réception finalement positive, alors que, effectivement, on part toujours du principe que les pavillonnaires sont très hostiles au changement? Donc pourquoi je dirais que généralement les habitants, dans ce qui ressort, c'est qu'ils ne se sentent pas légitimes pour protester. Alors plusieurs facteurs expliquent cette relativement bonne réception de la densification dans ces quartiers. Tout d'abord, je dirais l'hétérogénéité sociodémographique. On a dit que c'est des quartiers anciens, qui évolue en permanence, petit à petit, par petites touches disséminées, ça évolue là, puis là, puis là, et puis de là, puis voilà. Donc finalement là-dedans, il y a eu déjà beaucoup de turnover, il y a beaucoup de générations présentes, il y a des couches sociales déjà assez mixtes. Donc l'hétérogénéité sociodémographique, deuxième élément et qui à mon avis est tout à fait central, la sous-représentation des cadres dans ces quartiers, sous-représentation des cadres qui limite à mon avis très fortement l'expression du syndrome NIMBY. Puisque c'est en tout cas dans les communes pavillonnaires, les phénomènes de clubbing sont essentiellement portés par des communes huppées. Donc en fait, moi j'ai vraiment essayé de leur tirer les verres du nez pour voir s'il n'y avait pas des espèces de micro-syndromes NIMBY. J'ai vraiment essayé de... J'ai repris le truc dans tous les sens, mais si, il doit y avoir un truc. Et en fait, à aucun moment, même pour les constructions de collectifs privés ou pour la densification de l'avenue Pierre Mendès-France avec le tram, là, ils ont rasé toutes les maisons. Ils construisent des immeubles, des foyers, logements et tout. Les gens, ils ont le pavillon juste derrière. J'ai enquêté les gens dans la rue juste derrière. Donc, vieux, ils ont appelé la mairie, ils discutent par-dessus la haie. Oh là là, mais tu te rends compte, et machin, puis les travaux, ça va faire de la poussière, et puis tu crois pas que. Mais en fait, ils font rien, et ça va pas plus loin que de se renseigner à la mairie, ça va pas plus loin que de discuter par-dessus la haie. C'est pas vraiment ce qu'on peut qualifier de syndrome NIMBY. Il y a aucune organisation et aucune opposition très ferme. Hein. Les permis ne sont pas attaqués non plus. En fait, les permis ne sont attaqués que dans un autre quartier d'Avrillé, qui est appelé le Wisteria Lane d'Avrillé, donc avec un minimum parcellaire à 900 m² et avec pas de haies, vous savez, enfin vraiment le modèle à l'américaine, où là, effectivement, il ne faut rien faire, sinon, tout de suite, c'est la levée de bouclier. Donc je disais deuxième élément, donc faible présence des cadres. Troisième élément qui, à mon avis, participe au fait qu'ils ne se sentent pas légitimes et puis que cette réception est relativement bonne. Et un respect, alors ils ont vraiment presque tous évoqué ça, un respect des décisions publiques des services de permis de construire qui autorisent ceux qui suivent le règlement local. Donc les gens me disent, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Si le monsieur ou l'entreprise, la Taraxia, là, qui a monté le petit collectif de 23 logements, ben, il a demandé, il a eu son permis, si vous voulez que j'y fasse, il a eu son permis, c'est que ça respectait le règlement d'urbanisme, donc j'ai rien à dire. Énormément de discours comme ça. Et alors, l'individualisme pavillonnaire, qu'on pensait plutôt propice à un rejet du changement, eh bien finalement, je dirais qu'il favorise plutôt l'absence de mobilisation collective et il favorise une relative tolérance à l'égard de ce que fait le voisin chez lui, de ce que fait le voisin sur sa parcelle. On est vraiment l'individualisme pavillonnaire et les facteurs de je ne vais pas aller embêter, je ne vois pas au nom de quoi j'irai embêter mon voisin qui veut faire un agrandissement ou construire une maison pour notre maison dans son jardin. Moi je ne veux pas être embêté, je ne vais pas aller l'embêter si moi je ne veux pas être embêté. Enfin, c'est le stade, c'est le...
Tu me tiens?
Oui, je ne suis pas sûre que ce soit que le jeu. Enfin, ça se pose que en termes de je te tiens, tu me tiens. C'est vraiment une des bases de l'idéologie pavillonnaire qui est encore quand même très vive et qui avait été travaillée, donc, comme tout le monde le sait, par Nicolo. Dernière chose, eh bien, je pense qu'effectivement le fait que le quartier soit historique et que le quartier soit déjà composite, qu'il évolue progressivement, et eh bien finalement ça crée une habituation au changement, une habituation et donc une acceptation de ce changement qui serait plus grande que dans d'autres quartiers, soit plus aisés, soit plus neufs et donc plus homogènes, où effectivement les choses sont plus difficiles à faire passer parce que tout de suite plus visibles et plus, voilà, ayant plus de conséquences. Et puis, enfin, deux autres choses. Le fait que, comme je vous disais, un certain nombre, finalement, de raisonnements qu'on entendait, y compris de la dame qui est juste à côté du fameux immeuble d'Ataraxia, qui a son pavillon et une grue juste au-dessus de son toit, elle dit, ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Il faut bien que les choses changent, c'est la vie, et bon. Et puis il faut loger les jeunes, il faut... Et donc j'ai eu tout un tas de... Enfin, tout un tas, c'est pas une majorité, hein, qui ont spontanément verbalisé ce genre de choses, mais des choses de l'ordre de l'intérêt collectif qui passent avant notre petit confort personnel. Et du style, bah, faut bien tolérer ce genre de choses, puisque même si c'est peut-être moins confortable ou moins joli, mais il y en a besoin pour pas que la ville s'étende trop, c'est un discours. Effectivement, pour pouvoir loger les jeunes, pour pas que les gens aient à se loger, à aller faire des transports énormes pour se loger trop loin de leur travail qui se trouve dans la ville. Donc voilà le genre d'intérêt, les choses qui ont pu se manifester dans les discours. Et puis dernière chose, un effet alors là, qui est vraiment strictement, je dirais, local et même peut-être temporel lié au moment où j'ai fait mes enquêtes. En tout cas pour le Bois du Roi, c'est le fait que de toute façon tous les esprits, ceux des élus et ceux des habitants, sont focalisés sur la densification de l'avenue Pierre-Mendès-France avec le tram, et que de fait tout le reste paraît dérisoire. Et au Coudreau, mais ça je pense que c'est moins lié au moment même. C'est le fait que là-bas, les clivages communautaires, en fait, et la mauvaise réputation du quartier dans la presse est vraiment le sujet de discussion majeure et de préoccupation majeure des Coudrésiens. C'est leur image et les tensions entre les Portugais, les Gitans, les Arabes, les Noirs, les Blancs, donc, enfin les Français, allez, les Français, c'est eux qui disent ça. Là-bas, il y a un contexte communautaire qui est particulier et qui fait que, de toute façon, les autres choses importent peu. Donc, pour conclure, excusez-moi. Donc, pour conclure, sur les limites de ce processus, effectivement, ce processus de ces processus, puisqu'il y en a plusieurs de densification par le parc, qui sont portés donc par des propriétaires. Mais largement impulsé, je le disais, au moment notamment des reventes, des décès, des successions, largement impulsé par les professionnels de l'immobilier et de la construction, qui sont vraiment des acteurs importants des stratégies actuelles de densification dans ces quartiers. Effectivement, ces processus de densification par le bas vont dans le sens du développement durable, parce qu'ils vont dans le sens de la densification des tissus pavillonnaires et donc de la lutte contre l'étalement urbain. Et puis, je dirais que les logiques et les raisonnements, par contre, qui en sont à l'origine, eux, n'ont rien à voir avec le développement durable et sont essentiellement économiques. Pour ceux qui transforment, du côté des transformateurs, donc des diviseurs qui construisent ou qui ne construisent pas. Donc voilà, quelque chose de durable, enfin labellisable durable, mais qui n'est pas vraiment durable dans ses moteurs. Toutefois, je voudrais quand même souligner un certain nombre de limites et de risques liés à ce phénomène de densification spontanée. Mais je me dépêche. Donc c'est que quand effectivement il y a toujours des conséquences, quand la densité augmente, il y a des conséquences sur la composition sociale du quartier, sur la structure du parc de logement, sur les modes d'occupation. Alors, ce qu'on peut voir, notamment ce que j'ai pu constater comme limite, c'est que les porteurs du projet Bimby avaient élaboré en amont un certain nombre de scénarios de vie qui étaient des scénarios de vie qui étaient pensés comme étant susceptibles d'intéresser des gens et de les conduire à diviser, du type accueillir, faire construire une petite maison dans mon jardin pour accueillir un parent âgé ou pour accueillir mon enfant devenu adulte mais qui n'a pas les moyens de s'installer et tout un tas, ou alors construire pour faire un investissement locatif, construire dans mon jardin pour faire un investissement locatif donc payer la taxe foncière, etc. Donc il y avait tout un tas de scénarios où il se trouve que dans les faits, c'est que ces scénarios, pour moi, ont montré un certain nombre de limites. Alors, limites parce que, d'une part, pour la très grande majorité des gens, ils ne correspondaient pas aux désirs ou aux besoins des habitants, soit que les enquêtés ne veulent pas héberger leurs proches sur leur parcelle, soit parce qu'ils se disent, non, ici, je dois héberger ma mère, je ne vais pas la mettre dans une cabane au fond du jardin, je la prendrai chez moi. Et je ne peux pas accueillir mes enfants, mon fils et ma belle-fille dans le jardin. On a des bonnes relations, on ne va pas se mettre si près les uns des autres, ça va mal finir. Donc les gens ne veulent absolument pas avoir leurs enfants là. Enfin, l'ado qui, oui, mais pas le couple.
Pas le couple de 35 ans.
Voilà, c'est ça. Donc, et par ailleurs, vraiment, dans une très grande majorité, les gens ne se montrent pas intéressés par le bénéfice financier qu'ils pourraient retirer, soit d'une division, soit d'un investissement locatif. Donc, quant aux limites, donc, autre limite, effectivement, c'est des gens sur des scénarios de vie comme ça, et notamment le scénario d'accueillir un parent âgé, ils ne veulent pas les accueillir dans une cabane au fond du jardin, mais par contre, il y en a qui ont aménagé... un sous-sol, mais vraiment ils ont investi, non, mais parce que en fait faut savoir les maisons elles sont toutes sur sous-sol, donc en fait il y a des fenêtres, c'est pas enterré, des sous-sols non enterrés, okay. En fait, et donc il y en a plein qui ont, il y en a, j'ai quand même plusieurs cas dans les deux terrains de gens qui ont fait des investissements en perspective d'accueillir un parent âgé, et en réalité soit au dernier moment la personne âgée n'a pas voulu déménager, parce qu'on ne déménage pas très facilement quand on est âgé. Et d'autre part, dans un autre cas, la femme a effectivement fait emménager sa mère, mais il y a eu des cas effectivement où les gens ça met le couple accueillant en difficulté, soit pour dans l'autre cas, c'était une femme seule qui a accueilli sa mère, qui était impotente, et ça a été un enfer, quoi. Pour elle, non, mais c'était horrible, quoi. Enfin, je veux dire, c'est hyper dur. Donc, voilà, pour les limites sociales, très très vite, gros problème. Alors, je suis censée finir, le stationnement. Le stationnement, parce que si on augmente la densité, puisque chacun a sa bagnole, tout le monde le sait, et que les gens aiment bien se garer en bas de chez eux, le problème du stationnement, c'est-à-dire qu'on augmente la densité, mais quand dans les processus spontanés comme ça, on ne prévoit pas de place de parking. Et donc, les rues ne sont pas prévus pour accueillir une si grande densité de véhicules, puisque les véhicules vont avec, sinon on est captif. Si on n'est pas bimotorisé dans le périurbain, on est captif. Donc, voilà. Donc, le stationnement, les équipements et les commerces, c'est pareil. Dans ces cas de processus spontané, il n'est pas prévu, comme dans les AC et les opérations collectives, des aménagements et des services et des commerces qui sont assortis avec l'augmentation de la population. Donc faut ça une chose à penser, et notamment si on accueille des couches populaires dans des locations à l'intérieur de pavillons et de choses comme ça, s'ils sont modestes, ils peuvent pas être, ils ont pas de voiture, et si on pense pas au transport public, ils sont captifs. Même si en fait à vol d'oiseau c'est très près de la ville, mais dans le cas de Chelles par exemple, ils sont vraiment captifs, parce que les systèmes de bus sont pas du tout performants. Donc voilà. Donc ça a des vertus, permettre aux primo-accédants, aux ménages modestes d'accéder dans ces quartiers, parce qu'ils n'auraient pas les moyens d'acheter une parcelle complète. En achetant une demi-parcelle, ils peuvent accéder, d'accord. Donc ça, il y a une forme vertueuse, mais il y a aussi l'émergence grâce à ça, d'un secteur locatif privé. Dans les zones pavillonnaires, ce qui est relativement peu connu et peu existant, donc ce qui en l'occurrence est assez demandé par les gens. Et puis, par contre, il y a effectivement, si les élus qui ont tendance à se dire « ça ne fait pas de schpouns, la densification par le bas, donc on ne s'en occupe pas tant qu'on ne la propose pas dans les quartiers de Tikwisea-Yalein », et donc peu de problèmes majeurs, donc on s'occupe d'autres choses. Mais si on ne met aucune régulation, eh bien, effectivement, nous, on a pu déjà voir poindre des choses avec, dans d'autres terrains qui ont été faits par des collègues, notamment, eh bien, moi, je l'ai vu avec des étudiants qui vivaient dans des conditions indignes, par des personnes âgées qui logeaient des étudiants dans des conditions indignes, dans le garage. Enfin, ils avaient une pièce, mais tout le reste était situé dans le garage où la voiture servait, et où le type, il allumait, ça faisait chauffer le moteur de sa voiture, alors que c'était la cuisine des étudiants, quoi. Et en plus, ça a des prix, voilà. Donc voilà, genre de choses qu'il faut peut-être réguler, même s'il y a des avantages à ces processus spontanés. Et autre chose, eh bien, développement dans ces pavillons appartements en Ile-de-France, eh bien, des dérives locatives du type marchand de sommeil. Voilà, je vous remercie, désolée d'avoir trop traîné. Thank you.